Bonjour et bienvenue autour du piano blanc. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider par la musique de l'intérieur. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de m'entretenir avec, en quelque sorte, ma deuxième mère, parce que j'ai passé énormément d'années ici, à l'École de musique Jocelyne Laberge, à apprendre la musique. Et comme dans le dernier épisode, je vous parle de l'apprentissage de la musique chez les jeunes enfants, j'ai pensé vous inviter ma spécialiste dans le domaine, celle qui dirige l'École de musique Jocelyne Laberge depuis plus de 25 ans maintenant. C'est une école qui a un programme tout particulier pour les tout-petits. Brigitte Lamontagne, bonjour!
Bonjour Valérie, mon Dieu, quelle belle présentation! Hey, une deuxième mère, mon Dieu, voilà que je suis maintenant maman! Ah non, mais continue, est-ce que tu as des questions, j'imagine, à me poser?
J'adore ça parce que Brigitte m'avait dit « Ah, oh, moi, tu peux me poser une question, puis je vais partir. » Puis juste le mot d'introduction, elle dit pas « bonjour » à part. J'adore ça. Alors oui, effectivement, j'ai préparé quand même des questions. La première, c'est, il y a beaucoup de gens qui me demandent à chaque année, particulièrement au mois d'août, au mois de septembre, pourquoi l'apprentissage de la musique... Voyons, j'ai bien de la misère. On ne reprendra pas à chaque fois que je fais des erreurs comme ça, on ne finira pas. Je l'ai dit que c'était convivial, un podcast. Hein? Les gens qui nous écoutent, ils acceptent les petites erreurs de diction en fin de soirée comme ça, fin de période d'inscription. Tout ça pour dire que pourquoi la musique chez les jeunes enfants, qu'est-ce que ça peut leur apporter? Pourquoi c'est une bonne idée de les inscrire à des cours de musique?
Wow! Belle question à développement. Est-ce que tu veux une réponse longue ou une réponse courte? Moyenne, elle me fait des signes, c'est bon. Bien, pourquoi la musique aux jeunes enfants? C'est une belle question. En fait, la musique, c'est un langage. Donc, à partir du moment où on a été capable d'apprendre à parler... Évidemment, apprendre la musique, ça fait partie de tout développement d'une belle société comme la nôtre. Donc, oui, commencer la musique à l'âge de 4, 5 ans, 6 ans, c'est vraiment une belle partie du développement chez l'enfant. Donc, nous, on propose des cours pour les tout-petits. Ça commence à 4 ans. C'est sûr qu'à 4 ans... Si on pense à l'âge scolaire, évidemment, on est 2 ans avant, on est dans le préscolaire. Donc, on peut commencer avec des petites notions de base, des croches, des noirs, des rythmes, des notes, toutes sortes de petites chansons. Je ne vais pas vous les chanter, rassurez-vous! Valérie, elle me regarde avec des yeux. Non, elle ne va pas chanter. Non, non, non. Non, je ne vais pas chanter Snifotti, mais on a toutes sortes de petits jeux qu'on peut faire à cet âge-là. Éventuellement, à 5-6 ans, on a une méthode très complète qui est la méthode « J'apprends la musique et ça m'amuse » de Jocelyne Laberge, qui développe en fait plusieurs facettes. Mais là, j'imagine que c'était ta prochaine question. Moi, je pourrais vous parler longtemps, mais c'est ça, la méthode Jocelyne Laberge, c'est une méthode qui a été créée par Jocelyne Laberge dans les années 70 pour les jeunes enfants, dont moi, j'en suis issue, en fait, parce que j'ai fait la méthode Jocelyne Laberge quand j'étais petite. En fait, ce que c'est la méthode, c'est apprendre les bases de la musique tout en s'amusant avec des petites chansons, des petites comptines chaque semaine dans lesquelles on apprend des nouvelles notes, des nouveaux rythmes, des jeux basés sur la couleur, les couleurs des notes, les hauteurs des sons. On apprend la gymnastique rythmique, donc la motricité, le développement. C'est une méthode, en fait. Jocelyne Laberge disait « Les enfants, il faut que ça bouge ». Donc, c'est une méthode qui est basée sur le rythme et où tout le corps participe. Donc, on a de la gymnastique rythmique, des sauts sur la portée. On devient nous-mêmes les notes. On saute sur une grande portée géante. C'est amusant, mais en même temps, c'est très complet parce qu'on apprend à lire les notes et on apprend à jouer du xylophone, donc éventuellement un petit peu de piano. Alors, c'est une méthode qui, je pourrais dire, est encore très d'actualité, même si elle a été composée dans les années 70, régulièrement, je m'amuse à... Je vais chez Archambault, différents magasins de musique, je regarde des méthodes. Puis, à mon grand étonnement, mais à ma grande satisfaction, je vois que c'est une méthode qui n'a pas été dépassée. Je disais souvent à la blague, à Mme Laberge, quand elle était encore vivante, je disais « Ah, votre méthode, Jocelyne, est belle, est bonne, les petites chansons sont le fun. » Mais mon Dieu, que ça fait années 70-80. Vous devriez la refaire en couleur. Eh bien, ça a été refait avec des beaux petits dessins. Puis, elle serait tellement contente aujourd'hui de voir ça parce que c'est vivant, puis c'est plus actuel. Mais c'est quand même la même méthode avec les mêmes objectifs musicaux, finalement. Donc, ça résume un petit peu l'idée de cette méthode-là, qui était quand même très prisée à l'époque et qui l'est toujours. On a quand même toujours une quarantaine d'élèves chaque année qui font la méthode et qui grandissent à travers ça, puis on est toujours fiers des résultats.
C'est tellement une belle méthode, puis effectivement, dans le fond, moi, je me souviens des cahiers qui étaient tout en noir et blanc avec les petits dessins, puis maintenant, ils sont tellement beaux. Donc, en gros, quand vous venez vous inscrire, quand vous inscrivez votre enfant, en fait, vous recevez un beau xylophone, et puis là, on parle pas de la qualité Toys R Us. On a vraiment un xylo qui sonne bien, vous avez une belle méthode. Puis aussi, je sais qu'il y a des professeurs de musique qui nous écoutent, qui viennent pas nécessairement de la région, mais je pense que tu l'enseignes, cette méthode-là. Donc, si on veut devenir affilié à la méthode de Jocelyne Laberge, on peut aller suivre la formation qui nous permet de l'enseigner. Elle est enseignée pas seulement à l'École de musique Jocelyne Laberge, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça. En fait, j'ai souvent été invitée à Vincent Dindy pour donner une formation qui explique comment donner le cours d'initiation aux enfants, parce que si on achète le livre, on regarde ça, ça a l'air super le fun, ça l'est, mais sans explication, si on ne sait pas trop comment l'amener, quel matériel ça nous prend aussi pour donner le cours, on peut être un petit peu perdu parce que c'est tellement clé en main comme méthode. C'est complet, ça nous remplit un 45 minutes, une heure de cours chaque semaine. On n'a pas à réinventer la roue puis penser « Oh mon Dieu, quelle activité je vais faire pour compléter mon cours. » Si on est bien outillé, on a le matériel, on a suivi la formation, c'est beaucoup plus facile. Évidemment, ce n'est pas obligatoire. Tout le monde peut enseigner cette méthode-là. Elle est en vente chez Archambault dans plein de magasins de musique. La coopérative de Vincent Dindy en vend beaucoup. Ce n'est pas obligatoire, mais je sais que des fois, les gens, quand ils viennent suivre la formation, ils disent « Ah oui, ça m'aide. » Là, ils prennent des notes puis ils disent « OK, ben je sais maintenant comment m'y prendre pour que ce soit le fun aussi. » Parce que c'est toujours le but. Il faut que la méthode, les enfants l'aiment, finalement. Hein? C'est ça.
Il l'aime, et il aime particulièrement le concert de fin d'année où on se déguise en brosse à dents. C'est un moment à ne pas manquer. Je vous partagerai dans les notes du podcast le site web de l'École de musique Jocelyne Laberge. Si ça vous tente, on va espérer vraiment qu'en 2021, on puisse faire un concert parce que vraiment, ça nous a manqué en juin 2020. Alors, maintenant, on parle beaucoup de la méthode Jocelyne Laberge parce que c'est la raison pour laquelle je voulais t'inviter. Je trouve que c'est une méthode qui est particulièrement pertinente. Puis de nos jours, dans les écoles, on retrouve toutes sortes d'ateliers d'éveil musical. Il y en a des pertinents, il y en a des moins pertinents. Parce qu'il y a quand même, puis on s'en passe parfois à la blague, on dit qu'il y a quand même deux types d'écoles, tu sais. Il y en a certaines qui s'improvisent un peu, pour qui c'est un petit peu moins pertinent. Puis je veux pas qu'on rentre ici dans la bitcherie, loin de moi cette idée. Par contre, il y a des parents aussi qui nous écoutent et qui se demandent, OK, mais moi, qu'est-ce que je fais pour savoir si une école propose un contenu qui est de qualité? Parce que souvent, quand on veut inscrire son enfant, bien, c'est justement parce qu'on veut développer ses capacités motrices, son langage également, parce qu'on le sait, apprendre à chanter, entre autres, à faire des comptines, même raconter des histoires, que ce soit avec les parents d'ailleurs aussi, pas juste avec les professeurs, mais ça aide beaucoup au développement du langage, utiliser sa voix, tout ça. Mais bref, si on est un parent, qu'on veut inscrire son enfant dans une école qui ne propose pas nécessairement la méthode Jocelyne Aberge. Évidemment, vous devinerez que nous, on est vendus. Et puis, s'il la propose, on vous dit « go », c'est là que vous devez aller. Mais qu'est-ce qu'on doit regarder en tant que parent quand on veut inscrire son enfant dans une école? Par exemple, je suis certaine que tu vas nous dire, si on vous propose des cours de guitare à 4 ans, dites non tout de suite. Tu sais, c'est ce genre de choses-là. Peux-tu nous dire pourquoi, puis exactement, donc quoi regarder?
Oui, effectivement, c'est une bonne question parce que, dans le fond, les parents veulent faire plaisir à leurs enfants. Les enfants, eux, quand ils veulent apprendre la musique, évidemment, il y a des enfants qui ont plus d'attirance depuis qu'ils sont jeunes. Ils dansent, ils chantent. Aussitôt qu'il y a une musique, un oncle, un cousin qui joue de la musique, ils sont très attirés. D'autres, peut-être un petit peu moins. Mais évidemment, les parents se disent, c'est formateur, je pourrais inscrire mon enfant à des cours de musique. Puis souvent, même, c'est l'enfant qui le demande. Il a vu quelqu'un jouer, il va dire, moi, je veux jouer du violon, je veux jouer de la flûte, je veux jouer du piano. Évidemment, ce qui est important, c'est l'âge, avant tout. C'est sûr, comme je disais tantôt, entre 4 et 7 ans, c'est bon d'avoir une base d'initiation à la musique, de lecture de notes, sous forme de jeu, sans avoir trop d'obligations de résultats au niveau d'un instrument, parce que les enfants, ils aiment avoir l'instrument. Ils sont contents d'avoir un violon, mais ils ne veulent pas nécessairement pratiquer à la maison. Et c'est là que le parent intervient, et évidemment le professeur aussi. Donc, on a besoin de s'assurer que l'enfant a accès à un cours qui lui convient pour son âge, et sa capacité de pratiquer à la maison. Donc, la question qu'il faut poser, c'est quel instrument et combien de temps on va exiger à mon enfant? Évidemment, comme tu disais tantôt, un cours de guitare pour un enfant de 4 ans, c'est pas très approprié. L'enfant ne pratiquera pas suffisamment pour avoir des résultats. Donc, c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau. Et souvent, l'enfant se dit... au final, « Ah, ben c'est moi, je suis pas bon, c'est trop difficile pour moi, je suis pas capable », alors que c'est tout simplement parce qu'il était trop jeune. Donc, les instruments qui s'apprennent jeunes, on parle de 7 ans, 8 ans, 9 ans, on peut parler du piano, qui est très accessible, une base de violon, des instruments comme la flûte à bec, le ukulélé, c'est des instruments qui sont quand même accessibles pour les enfants. Après 10 ans, on peut aller plus vers le chant, hein, une certaine technique vocale. C'est jeune, mais on peut commencer tranquillement. Des instruments comme la guitare, la batterie, la clarinette, la flûte traversière. Là, les horizons s'ouvrent un petit peu. Mais il ne faut jamais oublier que, dans le fond, l'enfant va avoir besoin de son parent pour pratiquer. Sont 15-20 minutes réglementaires chaque jour. Et ça, malheureusement, un enfant qui a en bas de 10 ans ne le fera pas de lui-même. Ça prend vraiment le support de ses parents. Puis c'est pas parce qu'il n'aime pas ça, c'est parce que ça prend une discipline. Sans parler d'une rigueur absolue, ça prend quand même la discipline pour apprendre un instrument. Puis ça... Bien, ça ne s'apprend pas tout seul. Alors, les professeurs sont là pour aider, pour bien encadrer. Puis la question que tu posais, que je dévie ma réponse, mais comment savoir si on s'inscrit dans une bonne école ou avec un bon professeur? Bien, c'est de voir, est-ce qu'il y a un certain encadrement? Est-ce qu'il y a un programme? Est-ce qu'il y a un but? Est-ce qu'il y a des petites présentations de temps en temps, des petits concerts? Est-ce qu'il y a une structure dans cette école-là où c'est juste on part, on vend des cours, on vend des guitares, on vend toutes sortes de choses, puis advienne que pourra, on n'a pas de suivi. Ça, c'est important. La durée de cours aussi. Tu sais, un enfant de 6 ans, 7 ans, quand il aura son 30 minutes de cours privé, c'est vraiment suffisant. 45 minutes quand on est un petit peu plus grand, éventuellement une heure, même une heure et quart pour un élève plus avancé. Mais il faut que ça s'inscrive dans une logique de oui, je vais à mon cours, j'ai accès à de l'information, mais ensuite, je dois le pratiquer. Il faut que ça soit concret, il faut que ça soit organisé, il faut qu'il y ait une structure. je pense.
Ben, je suis tout à fait d'accord. Puis d'ailleurs, j'ai hâte d'écouter ça parce que dans mon dernier épisode de podcast, je faisais justement sous forme de ligne du temps ce qui était recommandé pour les enfants, donc de 0 à 100 ans. Quelque chose de même, en tout cas. Fait que là, il faudrait que j'aille écouter ton extrait de réponse qui dévie si ça dit la bonne affaire avec ce que moi je disais. Si on est lié. Mais normalement, je vous l'ai dit, hein, c'est Brigitte qui m'a enseigné, donc on devrait dire à peu près la même chose. On a une philosophie qui est similaire quand même. Et puis là, on parle de pratique, on parle de l'importance de l'accompagnement du parent à la maison. Je veux parler un petit peu actuellement. On en parle souvent, les enfants sont parfois moins encadrés à la maison. Parfois, on remarque, puis ça, c'est vraiment une réalité, puis toi, tu le sais parce que ça fait des années que tu enseignes. Quand tu étais plus jeune, disons, les élèves pratiquaient plus. T'sais, ça arrivait beaucoup moins souvent que tu pouvais dire « My God, j'ai fait une soirée de jeunes à qui j'ai dit exactement la même chose que l'année passée. » Puis je sais pas, c'est un phénomène, je pense, qui est un peu social. On a même à un moment donné parlé de l'idée de faire comme à la gymnastique, de les prendre les enfants plus souvent parce que nous, on fait ça d'une manière un peu classique, c'est-à-dire qu'on voit les enfants une fois dans la semaine et après, ils sont responsables de leur pratique. Mais on se disait, est-ce que ce serait mieux de faire des cours de pratique aussi pour que les jeunes se déplacent et le prennent ce temps-là? Mais moi, en même temps, puis je sais que tu es d'accord, on a choisi éventuellement de ne pas le faire puis d'offrir nos cours. Premièrement, ce serait impossible de mobiliser autant de professeurs pour faire des cours de pratique. Mais bon, même si ce l'était, même si on avait une école de 3 étages, comment on fait quand on est un parent? Je reviens encore à mon chapeau parce que je sais qu'on en a, qu'il y a des parents qui nous écoutent, pour aider notre enfant à se structurer.
En fait, oui, c'est sûr et certain qu'on voit depuis peut-être 10, 15 ans que c'est un petit peu plus difficile d'installer une routine, d'installer une discipline de pratique à la maison. Et c'est en partie probablement lié au fait que les enfants ont beaucoup d'activités. Hein, ils font de la gymnastique, tu parlais de gymnastique, ils sont dans des programmes de concentration, sport-études, ils font du sport, Puis tout ça, c'est bon, là, c'est bon pour le développement, puis ils sont chanceux, en fait, d'avoir accès à tout ça. C'est juste que la musique, contrairement peut-être à d'autres sports ou d'autres activités parascolaires, la musique, ça demande de la pratique. Si on ne pratique pas entre les leçons, c'est pas évident parce que tu arrives au cours suivant, puis c'est comme le jour de la marmotte, là, tu recommencerais le même cours tout le temps. Donc, nous, on dit, en fait, moi, ce que je dis à mes élèves, c'est comme essaye de trouver une plage horaire dans ta journée. Ça peut être le matin ou des fois ceux qui vont dîner le midi ou tout de suite après l'école. Essayez de trouver une plage horaire fixe puis de s'en tenir à ça. Tu sais, si on dit, ben, je sais qu'il y a des écoles qui commencent plus tard maintenant. Ils sont dit, OK, ben, je sais pas, moi, de 8h à 8h30, ou, tu sais, dépendamment de l'âge, mais 8h à 8h20, tous les matins, je fais ma musique. Ben, déjà de prendre cette habitude-là, puis si une journée, on a mal à la tête, on est fatigué, ça nous tente moins, on le fait quand même, mais on le fait 5 minutes ou 10 minutes. Puis une journée que ça va bien, on est en forme, bien, on rattrape le temps. Au lieu de faire 20 minutes, on en fait 25. Mais on essaie de s'en tenir à cette plage horaire-là. C'est un petit peu comme faire de l'entraînement, de l'exercice. Hein? On se dit tout le temps, « Oh, ben oui, c'est pas difficile faire 20 minutes, une demi-heure. » Moi-même, je me dis ça. Des fois, je me chicane moi-même. Je me dis, « Ah, je le demande à mes élèves, je le fais pas pour moi. Hein? » 20 minutes d'entraînement ou de vélo stationnaire, là, c'est pas long, mais est-ce qu'on trouve le temps? Ben, c'est à nous, à un moment donné, à fixer des plages horaires puis essayer de s'en tenir à ça. Puis si c'est ça, ça file moins une journée, ça ne donne pas, on le fait moins longtemps, on en fait 5 minutes, on essaie d'instaurer ça. Puis ça, les parents peuvent très bien le faire parce qu'au début, c'est pas très demandant. Il y a des enfants qui font 10 minutes par jour, c'est pas beaucoup. Mais s'ils font tout le temps, bien éventuellement, le 10 minutes devient 15, puis éventuellement, la plage horaire va s'étendre par elle-même, mais l'enfant va avoir toujours intégré dans son mode de vie. C'est un mode de vie, la musique. Il faut que tu l'installes, il faut que tu vives avec ta musique. Puis à un moment donné, bien, ton instrument, ça devient ton meilleur ami, ou un de tes meilleurs amis, parce que tu le vois tous les jours, puis
éventuellement, l'enfant a hâte d'apprendre ses nouveaux morceaux, puis il va y aller par lui-même. Mais je le disais un petit peu plus tôt, en bas de 10 ans, je dis 10 ans parce qu'il faut mettre une ligne, tu sais, évidemment, c'est différent d'une personne à l'autre, mais autour de 10 ans et moins, l'enfant ne pratique presque pas ou peu par lui-même. Puis est-ce que c'est parce qu'il n'aime pas ça? Mais non. C'est juste parce qu'il pense à d'autres choses, il y a d'autres amis, d'autres activités, puis la journée passe, la semaine passe, puis il n'a pas pratiqué, puis il dit « Oh non, zut, je vais aller à mon cours, je vais être gênée, mon professeur ne sera pas content. » Il y a tout ça, une genre de petite culpabilité, puis nous, on ne veut pas ça. On veut que l'enfant vienne au cours en étant toujours content d'avoir sa nouvelle leçon, puis des nouvelles petites choses à pratiquer. C'est important pour l'estime de soi aussi. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, je parle trop, je pense.
Mais non, c'est parfait, tu y réponds bien. En gros, c'est ça, c'est de retenir que d'établir cette routine de pratique-là, c'est plus que de se dire « je bloque un 10 minutes », c'est une question de suivi sur le long terme. Si je fais de la flexibilité une fois par semaine, bien, même si je le fais tous les lundis, ça ne changera jamais rien, même si je le fais tous les lundis pendant 10 ans. T'sais. C'est un petit peu ça, je pense que le parallèle était bon par rapport à l'entraînement parce qu'on le comprend bien dans notre corps, mais la pratique de la musique, ça revient au même. Puis maintenant, je vais vieillir un peu parce qu'on n'en fait pas avec les tout-petits, mais j'aimerais terminer l'épisode avec la question des concours de musique parce qu'il y en a beaucoup quand même au Québec. Il y a beaucoup de gens qui mettent la musique sur, comment je pourrais dire ça, dans un contexte de performance. Puis je pense que ta vision des concours, elle n'est pas vraiment axée là-dessus. Puis j'aimerais savoir un peu comment tu perçois les concours, qui devrait en faire, qui devrait moins en faire, pourquoi est-ce qu'on sollicite certains des élèves ici à aller de l'avant puis à faire des compétitions, en fait. En quoi ça peut aider au développement des jeunes?
Mais ça aussi, c'est une bonne question. Les concours, il y a toutes sortes de philosophies par rapport à ça. Évidemment, moi, je trouve que d'avoir la chance de participer à différents événements dans ton parcours musical, c'est formateur. Donc, les concours aussi, c'est formateur. C'est sûr qu'il y a différents concours pour différents types d'instruments ou la voix ou différentes choses. Il y a, je ne vais pas dire qu'il y a des bons concours puis des moins bons concours, mais je trouve que c'est formateur dans le sens où c'est toujours de savoir c'est quoi le but. Tu sais, quand on s'inscrit ou quand on inscrit un enfant ou nous, nos propres élèves, à un concours, il faut s'assurer que c'est bénéfique pour sa formation. Donc, si c'est une source de motivation, évidemment, c'est excellent. Si c'est bon pour, je dirais, comme se mettre dans un contexte où il voit d'autres enfants de son âge qui font de la musique, ça aussi, c'est très formateur pour se préparer aussi à faire de la scène. C'est le concours, c'est peut-être la situation qui est la plus difficile parce que quand tu fais un spectacle, ben surtout quand tu es jeune, c'est ton public, c'est tes parents, c'est tes amis, c'est ta famille. Donc, automatiquement, ils sont fiers de toi, tout le monde te trouve bon. Quand tu fais un concours, là, tu en as d'autres du même âge que toi qui sont peut-être meilleurs. Ça te confronte un petit peu plus, mais c'est bon parce que ça te donne une certaine réalité de toi-même face à ton art, face à ta musique. Ça te pousse à t'améliorer. C'est un peu comme les sports, les compétitions sportives. Tu sais, ça nous pousse au-delà de nous-mêmes. Donc, c'est important, à mon avis, d'en faire, mais de ne pas en faire nécessairement une raison, dans le sens où on ne fait pas de la musique pour gagner un concours, par exemple. C'est si on gagne à un moment donné dans notre vie quelque chose, tant mieux. Si ça nous pousse à aller plus loin, tant mieux. Mais moi, c'est plus au point de vue démarche personnelle. Je trouve que les élèves qui participent à ces événements-là, souvent en sortent grandis. C'est positif. C'est des expériences de plus dans le bagage musical. Puis ça, ben c'est pas à négliger. C'est sûr qu'il y a des concours qui sont un petit peu peut-être moins bien structurés ou moins organisés, ou c'est juste du tape à l'œil, puis on veut juste, tu sais, montrer nos petits singes savants. Ça, j'aime moins, tu sais, mais en même temps, je pense que chacun est libre de choisir, autant l'élève, son parent et le professeur, de voir qu'est-ce qui peut être intéressant pour l'élève. Puis, est-ce qu'on embarque là-dedans ou pas? La question se pose tout le temps.
Mais c'est bon, je trouve ça intéressant d'en parler parce que c'est souvent une question qui revient. Puis, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'expriment sur le sujet. Tu sais, on va entendre des promotions sur des concours, on va entendre l'opinion populaire, si on veut. Mais je trouve que ta vision des concours est vraiment pertinente. Puis, j'espère que ça éclaire certaines personnes qui nous écoutent. Mais en tout cas, vraiment merci, Brigitte, d'avoir pris ce temps parce qu'on est, je le précise, en fin de période d'inscription. Puis, le podcast est vraiment là. On est le 2 septembre et le podcast est vraiment publié ce soir. Ça, d'habitude, j'enregistre les épisodes à l'avance, mais là, honnêtement, Brigitte a eu des journées de fou. On arrivait à la fin des journées, puis on était comme « on peut-tu reporter ça? » On avait le cerveau en compote, puis là, vous m'avez entendu bégayer un petit peu en début d'émission. Fait qu'imaginez si on avait fait ça une autre journée. On était foutus, vraiment. Là, je pense qu'on a réussi à bien condenser ce dont on voulait parler. Si vous avez des questions à propos des formations pour les jeunes, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les commenter dans les commentaires du podcast ou encore sur mon site internet ou sur la page Facebook. Vous vous gênez surtout pas. Ça va me faire plaisir de peut-être les poser à Brigitte ou d'y répondre ou d'avoir des discussions avec des collègues. C'est toujours super pertinent. C'est un sujet qui nous passionne. Puis là, j'ai pas posé la question à Brigitte sur pourquoi elle enseigne et tout ça. Je suis pas allée là-dedans. Mais c'est vraiment un milieu qui est rempli d'effervescence. L'enseignement de la musique, c'est un super beau milieu. Donc, merci d'avoir pris ce temps-là avec moi aujourd'hui, Brigitte. Si vous voulez plus d'informations sur la méthode Jocelyne Laberge ou sur l'école de musique comme telle, vous pouvez vous rendre au www.écoledemusiquejocelynelaberge.com. Puis là, Brigitte, peut-être je peux te laisser la parole pour un petit mot de la fin, puis pour nous dire aussi la page Facebook ou s'il y a d'autres réseaux sur lesquels on peut te rejoindre, ou même à la limite donner le numéro de téléphone de l'école, on ne sait jamais. En ce moment, je sais que c'est plutôt complet, hein? Ça va être une grosse année 2020-2021, mais on est contents, on est vraiment contents, puis je pense qu'en période de confinement, il n'y a pas mieux qu'un piano dans son salon, hein? Ou n'importe quel instrument de musique. Donc, Brigitte, je te laisse le mot de la fin. Puis sinon, ben, encore une fois, un grand merci de nous suivre autour du piano blanc. C'est toujours un plaisir de vous jaser ça. N'hésitez pas à nous suivre, donc espacepianoblanc.ca, valérielahaye.ca, ou si vous voulez donner un petit don comme à l'habitude sur notre plateforme Patreon, vous vous abonnez à 3$ par mois. Et nous, ça nous permet de suivre la démarche, de pouvoir organiser des événements, plein de beaux projets artistiques, puis de pouvoir vous tenir informé. Alors bref, j'arrête de parler, je lui cède le mot de la fin et en lui disant un grand merci, Brigitte Lamontagne, pour ta visite autour du piano blanc.
Merci Valérie, c'est super, c'était super. Écoute, j'espère que ça, j'ai pas trop parlé pour rien dire. On s'est étendu sur le sujet, ça a été vraiment un plaisir cette petite rencontre. Oui, tu l'as dit, on va avoir une belle, belle année musicale, on était un petit peu inquiet au début. On se disait, est-ce que les gens vont être un petit peu frileux de venir inscrire leurs enfants à des cours de musique? Mais non, on a une belle, belle, belle année qui s'en vient. On va souhaiter qu'elle soit en vrai jusqu'au bout, pas en FaceTime cette fois-ci. Et oui, je vous invite à m'écrire donc via le site Internet www.écoledemusiquejocelynelaberge.com. Vous avez l'onglet contact, donc vous pouvez m'envoyer un petit courriel, ça va me faire plaisir. Sur la page Facebook, École de musique Jocelyne Laberge Saint-Jean, vous pouvez m'écrire aussi, ça va me faire un grand plaisir. Le numéro de téléphone à l'école, 450-346-6098. Pour des détails plus personnalisés. Alors, merci et à très bientôt. Au revoir.